France Musique. Musicopolis. Stravinsky, Paris, 1913. Le 29 mai 1913, au Théâtre des Champs-Élysées, entre Les Sylphides, Les Danses du Prince Igor et Le Spectre de la Rose, est donnée par les ballets russes la création du Sacre du Printemps de Stravinsky. La chorégraphie de Nijinsky est très surprenante pour des spectateurs habitués au grand tutu de Coppelia et de Gisèle. Au lieu des danseuses sur pointe et des gracieuses poses dans l'en dehors, ici tout est en dedans, les pieds, les dos voûtés, les têtes penchées. Le public ne tarde pas à montrer son impatience. Ce sont les danses qui ont frappé les esprits échauffés lors de la création du Sacre du Printemps. Les danses de Nijinsky. Et ce n'est pas la première fois qu'il choque par sa chorégraphie. C'est le troisième ballet qu'il réalise pour Diaghilev. Mais avant d'être chorégraphe, il est surtout danseur. C'est l'étoile de la troupe des ballets russes. Il est aussi l'amant de Diaghilev et son protégé. Voici comment Stravinsky le décrit lorsqu'en 1910, pendant les répétitions de l'Oiseau de feu, il a tous les soirs l'occasion de retrouver le couple devant un copieux dîner arrosé d'un bon vin de Bordeaux. Il parlait peu, écrit Stravinsky, et quand il le faisait, il produisait l'effet d'un garçon d'intelligence peu développée pour son âge. Nijinsky a alors 21 ans. Mais chaque fois que cela se manifestait, Diaghilev, qui était toujours auprès de lui, ne manquait pas de le corriger adroitement, de façon qu'on ne pût s'apercevoir de ce défaut assez embarrassant. Vaslav Nijinsky est un sublime danseur. Et pour lui, Michel Fokine, le premier chorégraphe des ballets russes, réinvente en quelque sorte la danse classique. Il redonne aux danseurs masculins une importance qu'il avait au XVIIe et au XVIIIe siècle et qu'il a perdu pour devenir le faire-valoir de la ballerine, unique star de la danse pendant toute l'ère du grand ballet romantique. Fokine, lui, donne à son danseur des variations et des solos, et il met en lumière les capacités incroyables de Nijinsky. Dans Le Spectre de la Rose, créé au cours de la saison 1911, Nijinsky montre sa puissance masculine en produisant notamment un saut spectaculaire à la fin du ballet. Et en même temps, il est d'une grâce toute féminine dans les ports de bras demandés par Fokine. Il danse dans de nombreux autres ballets, jusqu'à ce que Diaghilev lui demande de monter un ballet lui-même en tant que chorégraphe sur Le Prélude à l'après-midi d'un faune de Debussy. Cette année-là, écrit Stravinsky, Diaghilev avait décidé d'employer tous ses efforts pour faire de Nijinsky un chorégraphe. J'ignore s'il croyait sincèrement aux dons chorégraphiques de ce dernier. Ou pensait-il peut-être que son talent de danseur, dont il raffolait, impliquait également celui de maître de ballet. Toujours est-il qu'il eut l'idée de faire composer par Nijinsky, sous son étroite surveillance, un genre de tableau antique évoquant les ébats érotiques d'un faune persécutant des nymphes. À la suggestion de Bakst, le peintre, qui était emballé pour la Grèce archaïque, ce tableau devait figurer un bas-relief animé avec sa plastique de profil. La part de Bakst dans ce ballet « L'après-midi d'un faune » poursuit Stravinsky était prédominante. Sans parler du cadre décoratif et des beaux costumes qu'il avait créés, c'est lui encore qui indiquait le moindre geste de la chorégraphie. Pour ce spectacle, on n'avait trouvé rien de mieux que d'appliquer la musique impressionniste de Debussy. Malgré le peu d'enthousiasme que celui-ci témoigna pour ce projet, Diaghilev arriva tout de même, à force d'insistance, à obtenir son consentement, donné bien entendu à contre-cœur. Après de multiples et laborieuses répétitions, conclut Stravinsky, ce ballet fut enfin mis sur pied et représenté au printemps à Paris. On sait le scandale qu'il produisit et qui ne fut nullement dû à la soi-disant nouveauté du spectacle, mais à un geste trop osé et intime de Nijinsky, qui, croyant sans doute tout permis dans un sujet érotique, voulut peut-être corser par là l'effet du spectacle. Si la chorégraphie de l'après-midi d'un faune est due à Nijinsky, l'idée du ballet, elle, revient à Diaghilev. Et il est temps de parler de ce génial impresario et organisateur. Pour un portrait de l'homme, je laisse la parole à Stravinsky. « Mon étroit contact avec lui, écrit-il dans ses chroniques de ma vie, me révéla bientôt la substance réelle de cette grande personnalité. Ce qui me frappa tout d'abord en lui, c'est le degré d'endurance et de ténacité qu'il atteignait dans la poursuite de son but. C'était toujours terrifiant et à la fois rassurant de travailler avec cet homme, tant cette force était exceptionnelle. Terrifiant, parce que chaque fois qu'il y avait divergence d'opinion, la lutte avec lui était très dure et fatigante. Rassurant, parce qu'avec lui, on était toujours sûr d'aboutir quand ces divergences n'existaient pas.
Последний меня. Был я отцом вам, ребята, вся в сединах голова. Вот она, служба солдата. О, ребят, вас, путь не подайся, не хнись, обняйся. Я оскорбил офицера, молод и он оскорблять старых солдат. Для примера должно меня расстрелять. Выпил я, кровь заиграла, дерзкие слышу слова. День императора встала. Могу, ребят, вас, вам. Путь не подайся, не хнись, обняйся. Раз, два, раз, два.
Un autre attrait pour moi, écrit Stravinsky à propos de Diaghilev, était la qualité de son intelligence et sa mentalité. Il possédait un flair hors ligne, une faculté extraordinaire de saisir d'emblée la fraîcheur et la nouveauté d'une idée et de s'emballer immédiatement pour elle avant tout raisonnement. Au contraire, celui-ci était très sûr chez lui. Il avait l'esprit fort sensé, et s'il faisait souvent des fautes et même des folies, c'est qu'il était emporté par la passion et le tempérament, deux forces prédominantes en lui. En même temps, c'était une nature vraiment large et généreuse, exempte de tout calcul. Et quand il commençait à calculer, cela voulait simplement dire qu'il se trouvait sans le sou. Par contre, quand il était bien fourni d'argent, il devenait dépensier pour lui-même et pour les autres. Ce qu'il détestait le plus, c'était la platitude, l'incapacité, le manque de savoir-faire. En un mot, il haïssait et méprisait les imbéciles. Chose bizarre, chez cet homme si intelligent, l'habileté et la finesse s'accommodaient fort bien d'un certain fond de naïveté enfantine. Il n'était absolument pas rancunier. Quand quelqu'un l'avait roulé, il ne lui en voulait pas, il disait simplement « Eh bien quoi, il se défend ?»
Ярославском городе была на Казани. Розы и царь Миронов повеселилась и
Serge Diaghilev est né en 1872. Il a 10 ans de plus que Stravinsky. Il a commencé par faire des études de droit, comme Stravinsky et comme beaucoup de jeunes Russes de sa classe sociale. Il est issu de la petite noblesse russe. Il a fait aussi quelques études de musique. Mais lorsqu'il va voir Rimsky-Korsakov pour prendre des leçons, celui-ci lui fait bien comprendre que son avenir n'est pas dans la composition. Il se lie alors d'amitié avec des artistes dont Alexandre Benois et Léon Bakst, réunis au sein du groupe Mir Iskustva, le monde de l'art. Et il s'occupe déjà de ballet lorsqu'il est nommé assistant du directeur des théâtres impériaux. Avec la création de la revue Le Monde de l'Art, Diaghilev veut faire connaître l'art moderne européen en Russie et en même temps faire connaître l'art russe en Russie et à l'étranger. En 1905, il organise une grande exposition de portraits historiques russes à Saint-Pétersbourg. L'année suivante, 1906, il amène à Paris une exposition d'art russe dans le cadre du Salon d'automne au Grand Palais. Diaghilev conçoit cette exposition comme un aperçu du développement de l'art russe vu à travers un œil moderne. L'exposition est très brillante et on donne aussi un concert pour présenter la musique russe. Il en profite pour nouer des relations avec le Paris artistique et mondain. En 1907, Diaghilev revient à Paris avec 5 concerts historiques donnés à l'Opéra. Enfin, en 1908, il fait découvrir au public parisien Boris Godounov de Moussorgski, dont c'est la création hors de Russie. Fédor Chaliapine tient le rôle-titre et impressionne durablement les amateurs. Enfin, en 1909, Diaghilev crée sa compagnie Les Ballets Russes. Il veut proposer cette saison quelques spectacles de danse pour compléter de belles représentations d'opéra, de Serov, de Moussorgski, de Rimsky-Korsakov et de Borodine. En fait, c'est la danse qui va emporter la mise et qui va donner une nouvelle direction au travail de Diaghilev. La grande force des spectacles de Diaghilev, c'est qu'ils mettent tout au premier plan. Musique, danse, costume, décor. Tous les éléments concourent à la réussite du spectacle. Pour la chorégraphie, Diaghilev a fait appel à Michel Fokine, jeune maître de ballet de l'école impériale et dont on pense qu'il pourrait bientôt remplacer Marius Petipas. Fokine reproche à la vieille école russe d'être fondée uniquement sur les 5 positions et de se focaliser sur le travail des jambes. Fokine est inspiré par la danse libre d'Isadora Duncan. Il veut que le corps entier des danseurs exprime la danse. D'autre part, il défend la musique comme élément majeur du ballet, sans asservir l'une à l'autre, et il cherche à être en accord avec les peintres du ballet dans la ligne du monde de l'art. Il a aussi dans sa compagnie de purs génies de la danse comme Anna Pavlova et Vaslav Nijinsky.
Thank you.
l'ouverture du ballet « Nuits égyptiennes » d'Anton Arensky, l'Orchestre symphonique de Moscou dirigé par Dimitri Yavlonsky. Tout le programme, la réécoute et le podcast de cette émission et des autres émissions Stravinsky sont sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Pierre Monteil pour le mixage, Françoise Monteil et Philippe Demenoux pour les recherches et le site et Béatrice Trichet pour la réalisation.
Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.